France Musique. Un point sur l'actualité avec vous, Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Gabriel, bonjour à toutes et à tous. Condamné dans les années 60 aux États-Unis pour le meurtre de Malcolm X, deux hommes viennent d'être disculpés par une juge de la Cour suprême de l'État de New York. Le procureur qui est à l'origine de la réouverture de ce dossier après la diffusion il y a un an d'un documentaire sur Netflix, le procureur a présenté les excuses des autorités pour des décennies d'injustice. Accusé à tort, Mohamed Aziz est toujours vivant, il a 83 ans aujourd'hui. Khalil Islam est lui décédé en 2009. Deux de ses fils étaient présents hier à l'audience. En France, l'Assemblée nationale demande pardon aux harkis. Les députés viennent d'adopter en première lecture un projet de loi censé réparer les préjudices subis par ces Algériens qui ont combattu aux côtés de l'armée française. Le texte reconnaît notamment les conditions indignes de l'accueil réservé aux 90 000 harkis et à leurs familles qui ont fui l'Algérie après l'indépendance. D'ores et déjà, 50 millions d'euros ont été inscrits dans le budget de l'État pour abonder le fonds d'indemnisation. Le Sénat va maintenant s'emparer de ce dossier. Originaire d'Amérique centrale, d'Haïti ou encore du Venezuela, 2000 personnes viennent de former une nouvelle caravane pour traverser ensemble le Mexique et franchir, si possible, la frontière avec les États-Unis. Ils cherchent à rejoindre un autre groupe de migrants qui se trouve actuellement dans l'État de Veracruz, dans le sud du pays. Pour stopper ces mouvements de population, les associations qui accompagnent les demandeurs d'asile sur le terrain réclament que l'État mexicain distribue des papiers aux réfugiés. Toutes ces informations et bien d'autres d'ailleurs ne seront sans doute pas évoquées aujourd'hui par les journalistes de France 24, cette chaîne qui traite l'actualité internationale et qui dépend de l'audiovisuel extérieur de la France. Cette chaîne est touchée par une grève depuis hier matin, grève reconduite aujourd'hui par une assemblée générale du personnel. Dans leur grande majorité, les salariés dénoncent un véritable malaise après le vote d'une motion de défiance début novembre contre plusieurs dirigeants. Antoine Mariotti est journaliste à la rédaction de France 24. Il est interrogé par Fiona Mogadam.
Il y a un malaise, il y a un management toxique de la part de plusieurs dirigeants, pas de tous, mais de la part de plusieurs. Et puis il y a trop de pigistes dans la société. Ce n'est évidemment pas contre les pigistes, qui sont souvent des pigistes à temps plein, et ce qui est donc illégal, travaillent dans la société depuis 6, 7, 8, 10 ans, parfois 13 ans. Et donc ce qu'on demande, c'est qu'actuellement, il y a 32% des effectifs qui sont pigistes. On demande à ce que cette part baisse considérablement. Sur ce point-là, on a commencé à être entendu par la direction, qui a annoncé que d'ici 2 ans, cette part serait rabaissée à 20%. Mais on demande plus de clarté sur ce point-là. Et puis surtout, il y a une rupture trop importante avec certains dirigeants aux yeux d'un certain nombre de membres de la rédaction qui demandent à ce qu'il y ait des changements dans l'organigramme, qu'il y ait des changements dans la manière de gérer les gens, un changement dans le management tout simplement. Ces problèmes, ils sont transversaux à tous les corps de métier. Et puis, c'est aussi des problèmes transversaux à toutes les langues, français, anglais, arabe, et c'est là qu'on se retrouve, et c'est la première fois que moi je vois une telle agglomération de ras-le-bol finalement, et surtout une déception d'avoir le sentiment de ne pas être suffisamment entendu. La direction nous a écoutés, ils ont entendu certains problèmes, ils ont enclenché certaines choses, mais on n'a pas de choses réellement concrètes qui nous permettent de dire que c'est suffisant pour pouvoir arrêter le mouvement.
Finalement, rien ne devrait bouger du côté du télétravail. Les chiffres de contamination du Covid-19 ont beau s'envoler. Avec plus de 20 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures, le gouvernement ne veut rien changer pour l'instant. Le président du Conseil scientifique a pourtant plaidé cette semaine en faveur d'un renforcement donc du télétravail pour faire face à la nouvelle vague épidémique. 7 heures passées de 33 minutes à suivre juste après votre revue de presse. Gabriel Oliver Aguillon, la chronique de Christian Merlin à 7h50 sur France Musique. Il sera question d'un projet une nouvelle fois suspendu, celui d'une salle modulable de quelques 800 places à l'Opéra Bastille. La crise sanitaire est manifestement passée par là.
Merci beaucoup Olivier Denré. À tout à l'heure, prochain journal à 8h.
À tout à l'heure.
L'ouverture de la flûte enchantée de Mozart, interprétée par le concert spirituel dirigé par Hervé Niquet. Des musiciens qui seront en concert en la chapelle royale du château de Versailles ce week-end. Demain à 19h et dimanche à 15h au programme de Requiem, l'un de Mozart et l'autre de Salieri. Un concert qui sera d'ailleurs l'enregistrement d'un prochain disque pour la collection discographique du label Château de Versailles Spectacle. 7h40, il est l'heure de prendre un autre café et d'ouvrir les journaux.
Musique Matin. Le 7-9 de France Musique, Gabriel Oliver Aguillon.
Nous l'avons appris hier via Res Musica, le décès de l'organiste Jean-Claude Reynaud, à l'âge de 84 ans, élève de Marcel Dupré. Il devient lui-même professeur au Conservatoire de Paris de 1972 à 2002 pour l'enseignement du contrepoint et de l'harmonie. Jean-Claude Reynaud fut également chef de chant à l'Opéra de Paris. Parmi ses élèves, on note Pierre Pincemaille, Olivier Latry ou encore Emmanuel Haïm. Il était organiste au Temple de l'Annonciation à Paris et s'est rendu célèbre dans les années 60 par sa participation à la collection discographique du label Vox, consacrée à l'orgue français des origines à nos jours. Ses enregistrements, notamment ceux consacrés à Olivier Messiaen à l'orgue de Saint-Cernin de Toulouse, restent de grandes références. Le contrat de Daniel Harding en tant que directeur musical et artistique de l'orchestre symphonique de la radio suédoise est prolongé jusqu'en 2025. Le chef occupe ce poste depuis 2007. L'an prochain, effectivement, il fêtera le 15e anniversaire à la tête de cet orchestre. Daniel Harding qui dirigera l'orchestre de Paris et lui-même le 22 et 23 décembre prochains. Nous vous en parlions mercredi ici même avec Estelle Lory. La liste des 6 œuvres est officielle pour le Grand Prix lycéen des compositeurs de 2022. L'une des compositrices nommées est Graciane Finzi. Justement, une monographie, une première pour la musicienne, vient de paraître sur le label Arion. Et Si tout recommençait, c'est son titre, interprété par l'ensemble Calliope. Et ça tombe bien, la sortie de ce disque sera célébrée lors d'un concert Salle Blomet à Paris, ce lundi 22 novembre à 20h, avec Karine Le Tiec à la direction artistique. Il n'en fallait pas moins pour découvrir ou redécouvrir la musique de cette grande dame. Un communiqué tout frais de l'Opéra National de Bordeaux, Marc Minkowski, actuel directeur général, a proposé au conseil d'administration qu'Emmanuel André, son successeur désigné, prenne ses fonctions par anticipation le 17 janvier prochain au lieu du 1er septembre. Emmanuel André quittera donc ses fonctions à la Philharmonie de Paris, où il est actuellement directeur du département concerts et spectacles. Marc Minkowski laisse quant à lui un théâtre en ordre de marche qui a su faire face à la pandémie avec un nombre d'abonnements jamais atteint dans l'histoire de la maison, ainsi qu'un mécénat largement développé. Et bien entendu, la programmation établie par Marc Minkowski entre janvier et juillet 2022 est maintenue, notamment la trilogie Mozart d'Aponte sous sa direction entre mai et juin prochain. Marc Minkowski, que voici dans La Péricole de Jacques Offenbach.
Quand vous allez me surprésenter la comtesse.
Ah, la comtesse.
Oui, la comtesse.
Elle est bien bonne, celle-là. Elle est bien bonne, celle-là.
Mes amis, le respect s'en va.
Que pouvons-nous faire à cela?
Elle est bien bonne, celle-là.
La baronne de Tobago, marquise de Melle, s'adresse.
Allez donc, et hier bien,
vous allez voir. Venez, madame.
Je viens, monsieur.
Dieu, cette voix, la péricole.
Eh oui.
Comment c'est toi, toi, ma femme?
Eh oui, c'est moi.
Tu veux que j'entrevois?
Tais-toi, tais-toi, tu seras tout.
Ah, j'en sais bien assez, j'en sais bien assez, car je sais, copine, que c'est vous la maîtresse du roi. Et qu'alors,
je suis
moi.
Tais-toi, 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 tais-toi.
Elle est bien bonne, celle-là.
Vous attendez-vous à cela.
On voit ce que ça deviendra.
Mon Dieu, ah,
garçon, si tu m'aimes tant. Regarde à la câlinerie de sa voix et de son regard. En elle, toutes les menteries, je m'en aperçois, mais trop tard. Écoute-moi, je te présente à la face de tous ces gens. La femme la plus séduisante et la plus fausse, si tu m'aimes tant. Elle te dira qu'elle t'aime, pauvre vieux, et tu la croiras, comme je la croyais moi-même. Voyez, voyez, qui ne la croirait pas, puisque tu lèves pour maîtresse, garde-la, éveillée dessus. Garde-la bien, je te la laisse, garde-la bien, je te la laisse, et m'en vais.
Le chœur de l'Opéra de Bordeaux, les musiciens du Louvre dirigés par Marc Minkowski, une belle distribution, Aude Extremo, Alexandre Duhamel ou encore Stanislas de Barberac et Marc Moyon dans la Péricole, et cette ère de l'acte 2. Nous allons donc voir un mari de Jacques Offenbach. Vendredi, c'est le jour de la chronique de Christian Merlin, 7h49. Bonjour Christian.
Bonjour Gabriel, bonjour à tous.
Alors Christian, ce matin vous revenez sur une information passée à peu près inaperçue, l'annonce par le directeur de l'Opéra de Paris, Alexander Neff, de la suspension du projet de salle modulable à l'Opéra Bastille.
Eh oui, Gabriel, une annonce accueillie alors dans une indifférence totale qui en dit long, je pense, sur une forme de lassitude pour un projet de toute façon mal engagé depuis le début. Alors, un peu d'histoire, nous sommes en 1967, un certain Pierre Boulez donne une interview au magazine allemand Spiegel où il préconise de faire sauter les maisons d'opéra. Mais surtout, ça c'est la formule, il explique dans le fond que les théâtres à l'italienne sont inadaptés à la création contemporaine. Et la même année 67, il rédige avec Jean Villard, le grand metteur en scène de théâtre, un projet de réforme de l'Opéra de Paris où il préconise entre autres de construire une nouvelle salle plus moderne que Garnier. Alors cette salle se fera, 22 ans plus tard, c'est l'Opéra Bastille. On connaît l'histoire, c'est un des grands travaux de François Mitterrand. Mais ce n'est pas ce qui était prévu au départ. Le premier projet conçu en 1981 par Boulez et Jack Lang était une grande cité de la musique à la Villette, où il y aurait le conservatoire, un grand auditorium symphonique, une salle de concert plus petite, et le nouvel opéra. Et quand Mitterrand a finalement décidé de mettre l'opéra à la Bastille et non à la Villette, en gros, le projet a été vidé de son sens. Alors, pour amadouer Boulez, qui était très en colère, on lui a promis de construire à Bastille, en plus du grand opéra, une salle plus petite, entièrement modulable, pour accueillir justement des dispositifs nouveaux dans l'idée d'inventer l'opéra de demain.
Donc sur le papier, évidemment, ça semblait séduisant. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait, Christian Merlin?
Alors, je vais vous épargner le feuilleton à épisode des changements de majorité politique. Ça a duré des années. En tout cas, la salle modulable a été abandonnée. Elle n'a jamais vu le jour. L'enveloppe béton existe, 50 000 mètres cubes. Elle est vide depuis plus de 30 ans. Et voilà qu'en 2016, Stéphane Lissner, quelques mois après la mort de Pierre Boulez, dont il était très proche, annonce qu'il va finalement construire la salle modulable. Alors je n'en suis pas revenu, je m'en suis réjoui, mais au fond de moi-même, je suis pourtant optimiste, hein, je n'arrivais pas à y croire. Peut-être le côté chat échaudé. Et donc là, quand Alexander Neff a annoncé fin septembre en deux phrases que le projet était suspendu et que ce n'était pas le moment de le faire dans le contexte actuel, tout le monde a pensé très fort que cette salle ne verrait jamais le jour. D'autant qu'on avait prévu une date d'ouverture, mais pas ce qu'on allait mettre dedans, pas ce qu'on allait en faire. Alors, c'est dommage, parce que il y a aujourd'hui beaucoup de réflexions stimulantes des jeunes compositeurs, librettistes, metteurs en scène, sur les nouvelles formes à donner à l'opéra, qui est vraiment un genre très ancré dans le passé. Or, je vous rappelle qu'un certain Richard Wagner a toujours dit qu'il fallait repenser l'architecture du théâtre pour faire évoluer l'art. Et de fait, lui-même, pour révolutionner le genre, ce qu'il a fait, hein, ce cher Wagner, il a su ce qu'il fallait faire, il a construit sa propre salle.
À Bayreuth. Merci beaucoup, Christian Merlin.
Merci à vous, Gabriel.
Je vous souhaite un bon week-end, et puis à vendredi prochain, vous retrouverez Jean-Baptiste Urbain.
Avec plaisir, comptez sur moi.
Votre chronique est à réécouter. Retrouvez sur notre site francemusique.fr et sur l'appli Radio France. Et pour faire suite, voilà le prélude d'Œdipe donné à l'Opéra de Paris de Georges Enesco en septembre dernier à Bastille. Et je sais que vous l'avez beaucoup aimé, Christian. Le début du prélude d'Œdipe de Georges Enesco, interprété par l'orchestre de l'Opéra d'État de Vienne sous la baguette de Michael Gielen. Regardez l'heure, il est 7h55, c'est le moment de jouer, évidemment.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Gabriel Oliveira Guyon.
Ce matin, tenter de gagner le disque Rachmaninov, Shostakovich et Denisov par le violoncelliste Victor Julien Laferrière et le pianiste Jonas Vito, un disque sorti en 2019 chez Alpha Classics. Alors pour jouer, devinez comme chaque jour la voix mystère en nous écrivant via l'onglet « Contactez-nous » sur la page Musique Matin de ce jour. Sur notre site, question donc, qui parle ? Alors, c'est pas si facile ce matin. Un indice pour vous aider un peu, il s'agit d'une chanteuse.
La langue française est une langue qui résonne et on peut la faire sonner si on se donne le moindre petit mal pour la faire résonner. C'est une question de phrasé. Il y a des mots qui sonnent bien, par exemple Vancouver, justement pour parler de cette chanson. Pourquoi je l'ai appelée Vancouver ? Parce que les V, c'est doux, Vancouver. Par exemple, s'il y a des choses, des trucs que j'ai écrits avec des P, parce que c'est percussif, des P, des T, des K, parce que c'est percussif. Il faut choisir ces sonorités.
Alors, avez-vous reconnu cette voix ? Dites-le nous et vous gagnerez peut-être l'un des disques dont France Musique est partenaire, si vous êtes tiré au sort, bien sûr. Et hier, il fallait nous répondre, Frédéric Lodéon, c'était sa voix.
Avec mon face à main, je vois ce qui se passe chez Madame Germain, dans la maison d'en face. Les deux filles cadettes préparent le repas, reprisent les chaussettes et font le lit de leur papa. Et moi, s'occupe du palais, Paul va chercher le lait. Mais le petit René, moi qui est en l'aîné, fait rougir la maisonnée. D'un bout de l'année à l'autre bout de l'année, il met les doigts dans son nez. Oh. Les sermons, les discours dont ses parents le bourrent semblent tomber toujours dans l'oreille d'un sourd. Sa mère consternée a pour le sermonner, le priver de dîner et lui donner le martinet. L'enfermer dans les cabinets, il se met les doigts dans le nez. Oh. D'un bout de l'année à l'autre bout de l'année, c'est sa triste destinée. Pauvre petit René, pour terminer, on a de lui couper le nez.
La tragique histoire du petit René. J'aime bien cette chanson. L'une des quatre chansons pour enfants de Francis Poulenc, dans la belle interprétation de Patricia Petitbon et Suzanne Manoff au piano. Musique Matin, nous revenons dans quelques instants. Et à 8h30, nous recevrons le comédien, metteur en scène et écrivain Denis Podalydès. À tout de suite.
Musique et moi, le dimanche, de 11h à 12h30. Priscille Lafitte, France Musique.
Le chorégraphe Jérôme Bell est l'invité de Musique et moi ce dimanche, où il sera question d'Oum Kalsoum et de John Cage, de la danse Katak et des concertos de Mozart, de musique contemporaine et de Jean-Sébastien Bach. La musique n'est pas forcément dansée, elle est surtout visuelle, avec Jérôme Bell.
Musique et moi, le dimanche, à retrouver sur France Musique et en podcast.
Les études montrent que la protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Il est donc important de faire une dose de rappel pour continuer à se protéger et à protéger les autres. Quand faire sa dose de rappel? 6 mois après votre dernière injection, si vous avez 65 ans et plus, vous avez une maladie grave, vous êtes un professionnel de santé éligible. Vous êtes aussi concerné si vous êtes dans l'entourage d'une personne immunodéprimée. Vous avez été vacciné avec le vaccin Janssen? Vous pouvez faire votre dose de rappel dès 4 semaines après votre injection. Enfin, si vous êtes immunodéprimé, vous pouvez faire votre rappel à partir de 3 mois après votre dernière injection sur avis médical. N'attendez pas. Faites votre dose de rappel chez un professionnel de santé près de chez vous ou prenez rendez-vous sur www.sante.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Ce vendredi, les brouillards matinaux seront denses au nord du pays, mais le soleil parviendra à peu près partout à s'imposer, sauf dans le quart nord-est. 10 à Paris, 12 à Angers, Bordeaux et Toulouse, 18 en Corse, Nice, Marseille, Montpellier, et plus froid à l'est et au nord-est avec des maximales autour de 9 degrés. Il est 8h, merci d'écouter France Musique, l'heure des informations. Les informations vous sont présentées par Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Gabriel, bonjour à toutes et à tous. Marqué par une explosion sociale, il y a 2 ans, le Chili s'est doté depuis d'une nouvelle constitution. Et dans 2 jours, les électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour d'une élection présidentielle très indécise. La droite s'est regroupée derrière José Antonio Kast, un candidat ultra-conservateur. À gauche, c'est une large coalition qui soutient Gabriel Boric, qui hier s'est adressé au plus démunis dans les faubourgs de Santiago, la capitale chilienne. Sur place, c'est un reportage de notre envoyé spécial, Olivier Poujade.
Il y a 10 ans tout juste, Gabriel Boric sonnait l'une des 3 révoltes étudiantes qui amènent aujourd'hui le Chili à s'interroger sur ses politiques sociales.
Nous sommes nés des mobilisations et nous luttons pour changer les choses. Pas contre un modèle, mais pour un système plus juste.
Le voilà désormais candidat à la présidence. 35 ans, l'avant-bras tatoué, le poing levé, la barbe taillée.
Cette élection n'est pas gagnée. Méfiez-vous. Nous, ce que l'on veut, c'est former un gouvernement d'espoir, de changement et de transformation populaire.
L'Espero reflète la fracture du modèle néolibéral chilien, l'un des plus inégalitaires au monde. Santé, culture, éducation, tout a été privatisé ici depuis plus de 40 ans. De nombreux jeunes de cette commune étaient en 2019 sur des barricades. Ils sont aujourd'hui en prison.
Les petits doivent sortir. Ce ne sont pas des tueurs. Ils n'ont pas d'antécédents.
Sofia, mère de Mathias.
Dans quel pays les jeunes n'ont jamais fait de barricade? Ça fait 2 ans qu'ils sont prisonniers. Il y a des mères qui ont passé 2 Noëls sans leurs enfants. Et on s'apprête à en vivre un 3e. Quelqu'un doit s'engager.
Pour elle, cet homme ne peut être que Gabriel Boric, candidat d'une coalition de gauche menacée dans les sondages par José Antonio Kast, porté, lui, par les partisans d'extrême droite.
C'est partout pareil. En France, vous l'avez vécu avec Marine Le Pen. On doit lutter contre ça avec détermination et conviction.
Sur le terrain, dans les quartiers, Boric y travaille, sans pour autant déclencher de ferveur populaire.
À suivre également ce week-end des élections régionales et municipales au Venezuela. Pour la première fois depuis 2017, l'opposition va participer à ces scrutins, toujours très encadrés par le régime de Nicolas Maduro. Des routes sont bloquées en encore ce matin en Guadeloupe. La grève générale dure depuis 4 jours à l'appel d'un collectif d'associations et de syndicats. Ils dénoncent le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants contre le Covid-19. Plusieurs accrochages ont eu lieu avec les forces de l'ordre, notamment à proximité du CHU de Pointe-à-Pitre. La direction de cet établissement dénonce des actions qui perturbent, dit-elle, le bon déroulement des soins.
8h03 sur France Musique. L'avenir en commun, c'est le titre du livre Programme de Jean-Luc Mélenchon. Ce nouvel opus est disponible depuis hier dans toutes les librairies, Olivier Denray.
Et la France Insoumise espère aussi faire aussi bien qu'en 2017, quand elle avait écoulé 360 000 exemplaires d'une première édition qui vient donc d'être remise au goût du jour, dans la perspective bien sûr de la prochaine présidentielle. On y retrouve les propositions phares du candidat, une 6e République avec une planification écologique, un salaire minimum à 1 400 €, une retraite à 60 ans ou encore une allocation d'autonomie pour les jeunes qui ne sont pas rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Des jeunes qui, hier, étaient d'ailleurs, Claire Flochel, au rendez-vous d'une séance de dédicace avec Jean-Luc Mélenchon dans une librairie du 11e arrondissement de la capitale.
De nombreux jeunes attendent effectivement leur tour, comme cet étudiant de 18 ans venu se faire dédicacer 2 livres, un pour lui, l'autre pour son petit frère de 12 ans.
S'il n'y a pas des gens comme toi, comme moi, comme ton frangin, il n'y a rien qui bouge. Hein. Et voilà, jeune homme.
Merci, au revoir, monsieur.
Un échange qui fait se tourner Jean-Luc Mélenchon vers les journalistes présents, ce sera le seul moment.
C'est le rôle normal du passeur. À chaque génération, c'est comme ça. Moi aussi, je suis allé me faire signer des bouquins. Chacun a sa place dans le temps et dans l'histoire. Moi, ça me remplit le cœur de faire ça.
Le candidat insoumis a l'air ému, mais on n'aura pas le droit à plus, surtout quand on pointe que son programme ressemble au précédent. En effet, Jean-Luc Mélenchon reste fidèle à ses propositions de 2017 et c'est ce qui plaît justement à Simon, 23 ans.
À la France Insoumise, on ne s'est pas arrêté. Entre l'élection présidentielle de 2017 et celle-ci, on a continué à enrichir le programme et à l'adapter à 5 ans plus tard. Le reste des partis politiques, on dirait, bon, ils ont leur élection présidentielle, et puis après, ils se réveillent un peu à chaque élection.
La France Insoumise parle aux jeunes, et le parti a aussi besoin d'eux, explique Clémence Guettet, la responsable du programme.
On sait que c'est une catégorie d'âge qui a été très très abstentionniste dans les derniers scrutins, et donc pour nous, c'est un enjeu majeur, quoi.
Les députés et les figures du mouvement seront d'ailleurs aujourd'hui devant plusieurs universités pour faire la promotion du programme.
Emmanuel Macron sera, lui, dans les Hauts-de-France ces 4 prochains jours. Toujours pas candidat, mais bel et bien en campagne. Le chef de l'État devrait à nouveau distribuer quelques dizaines de millions d'euros pour améliorer les transports ferroviaires, aider à la reconversion de friches industrielles ou encore développer des pôles de santé et de proximité. Emmanuel Macron évoquera sans doute aussi la situation de l'usine d'Ascoval. Hier soir, à l'issue d'une nouvelle réunion avec les services de Bercy, le patron de cette aciérie a finalement renoncé à délocaliser une partie de sa production en Allemagne. Une menace liée à la hausse du prix de l'électricité. 8h passées de 5 minutes, Gabriel Oliver Aguillon à suivre le reportage de Louis Valentin Lopez, l'occasion de s'arrêter sur un mélange des genres, le hip-hop et la musique symphonique qui apprennent à faire bon ménage. Rendez-vous dans 5 minutes sur France Musique.
Et vous, bien, vous avez rendez-vous avec votre week-end maintenant.
Voilà, comme vous, presque.
Non, demain je travaille.
Demain, oui. Vous êtes comme un week-end demain.
Oui, c'est vrai. Bon week-end donc.
Bonne émission demain.
Bienvenue dans la deuxième partie de Musique Matin. Très heureuse avec toute l'équipe d'être avec vous pour ce début de journée. À 8h30, notre invité, le comédien sociétaire de la Comédie Française, mais aussi metteur en scène et écrivain, Denis Podalydès. Il vient nous parler de son spectacle au Théâtre des Bouffes du Nord actuellement à Paris et de son livre sur les coulisses de la mise en scène d'une pièce de Shakespeare. Et dans 15 minutes, Maxi Classique par Max Dosholm. Ce matin, honneur à la grande diva Adèle qui sort un nouveau disque, une voix lyrique, Adèle classique à sa manière.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Gabriel Oliver Aguillon.
Une copie originale de la Constitution américaine a été vendue pour 43 millions de dollars hier. Cet exemplaire rarissime de 1787, fondatrice de l'histoire politique des États-Unis d'Amérique, a atteint un prix record pour un document historique aux enchères. En 1787, Haydn, lui, composait ceci.
Thank you.
Menuetto poco allegretto du quatuor à cordes numéro 36 en si bémol majeur de l'opus 50 de Joseph Haydn, interprété par le quatuor Buchberger. À 8h10, tout de suite, c'est le reportage de France Musique.
Musique Matin, le reportage.
C'est le grand retour de hip-hop symphonique après une édition sans public l'an dernier à cause de la pandémie. Un grand concert demain samedi à l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique. Des artistes se produiront avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, seront de la partie MC Solar ou encore Célassiou, l'occasion de dresser un constat, la musique symphonique à la cote chez les chanteurs pop et hip-hop. Un reportage de Louis-Valentin Lopez.
Ayam, Youssoupha, Passy, ils s'y sont tous frottés ces dernières années. Des textes de rap plaqués sur un accompagnement symphonique. C'est atypique et c'est enrichissant, nous dit le rappeur MC Solar.
Ça nous sort de notre zone de confort. C'est-à-dire qu'on a souvent l'habitude de faire le morceau en studio, donc on le connaît de façon mécanique. Et ben là, on redécouvre un morceau. On se met quelquefois à suivre des instruments, amplifier l'émotion qu'on a voulu mettre. Quand on voulait exprimer une émotion, ben cette fois on peut le faire en chantant.
Une alliance pas si improbable que ça, c'est l'avis de la jeune rappeuse Laetitia Kerfa, alias Letty.
J'ai l'habitude de mélanger les genres. Parce que moi-même, j'ai été bercée par plein de musiques différentes. J'écoutais du rap, j'écoutais de la musique classique.
On voulait juste être libre, profiter de la vie. Alors on sort la nuit, car la nuit n'a pas de limite. Tu sais, nos rêves n'ont pas de prix. Alors je prie, crois-moi, je ferai mon possible pour que mes rêves se réalisent. On va rider toute la night.
Letty reprendra demain sa chanson « Ride toute la night » en version symphonique. Une expérience qui change des open mic, les micros ouverts à tous, où elle a l'habitude d'improviser.
C'est une question d'harmonie et de construire ensemble pour que ce soit encore plus fort. Des répétitions, a cappella, puis ensuite avec les violons, et puis ensuite voilà. C'est tout un cheminement.
Et il existe une porosité entre rap et musique symphonique, c'est ce qu'explique Issam Krimi, directeur artistique de Hip Hop Symphonique. Tout vient en fait de ce que l'on appelle le sample.
C'est le fait de prendre une partie de d'une musique, de se dire tiens, ce passage-là, je l'adore, bah, je l'aime tellement que je le répète. Quand je suis rentré dans ce monde du rap et du hip-hop, j'ai surtout vu beaucoup de gens qui pouvaient me sortir une symphonie parce qu'ils avaient trouvé un disque de Dutch Gramophone traîné avec Karajan sur telle symphonie et ils l'ont gardé, ils l'ont samplé, ils se sont amusés avec, quoi.
Le hip-hop donc, mais pas que, des artistes de variété et de pop s'essaient aussi au symphonique. On peut citer pêle-mêle Mika, Woodkid ou encore l'inclassable Arthur H. Il a chanté il y a 2 ans avec l'Orchestre d'Harmonie de Bordeaux. Il récidive ce mercredi avec le Philharmonique de Radio France, grisé par la puissance de l'orchestre.
Je me sens comme une espèce de grande voile, comme ça, sur un grand navire, comme ça, ancien. Et puis l'orchestre et le vent qui gonfle ma voile, quoi. On se sent comme ça, emporté littéralement par une énergie très, très vaste, quoi. Donc, là, c'est quand même le son du bois, du fer. Ça rentre plus en résonance, je pense, avec qui on est vraiment, c'est-à-dire des êtres organiques et pas des machines.
Et ce savant mélange des genres correspond aussi à de nouveaux modes d'écoute, selon le journaliste musical Olivier Cachan.
Dans les années 70-80, il fallait qu'on soit ou disco, ou hard rock, ou hip-hop. Maintenant, ça se mélange beaucoup. Un orchestre de 80 musiciens qui reprend, que ça soit de la variété, du hip-hop ou de l'électronique, comme dirait Claude Nougaro, ça met les poils du bras au garde à vous.
Bref, rap, rock, pop, classique, électronique, peu importe la musique, pourvu qu'on ait l'orchestre.
Et pourvu qu'on puisse réécouter cette chronique sur notre site francemusique.fr. L'occasion ce matin, à 8h14, d'écouter l'un des hip-hop symphoniques ici à Radio France que j'ai préféré. C'était en 2017, I Am, avec The Ice Cream et l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Dina Gilbert.
Y'a du monde ou pas ?
Le côté obscur.
Ouais. Un. Paris. Le côté obscur. C'est le moment. Ha. Le sombre monarque débarque et étale son pouvoir. La puissance de l'ombre s'installe. Non, ne résiste pas, ne lutte pas, ne te détourne pas de la main tendue vers toi où je vais explorer le royaume de tes peurs en devenir le dictateur pour mieux te dominer.
Là,
tu deviens raisonnable, c'est bien oui. Tombe sous le charme pour de meilleurs lendemains. Pour les rebelles, la force est trop forte. Je balaye les petits Ewoks comme le vent balaye les feuilles mortes. Les indécis sont avertis qu'ils se méfient de la seule étoile qui se fond dans la nuit. Le bastion des bas-fonds du pays. L'énergie dégagée génère une telle attraction que vers lui se tournent enfin tous les regards pour s'apercevoir que l'espoir émerge du noir. Une partie de tout homme, la force manipule de rien. Il suffit pour que l'être bascule, que les yeux de l'aveugle s'ouvrent, qu'il contemple Mars de l'obscur côté. Le temple des vapeurs, ouvre-moi ton cœur, viens vers l'empereur, sentir la chaleur de l'obscurité pour t'enliner, de rejoindre l'armée des guerriers de l'ombre. Ne sens-tu pas ton côté clair qui succombe, c'est ta destinée. Pourquoi vouloir lui résister sans peine, je ferai sauter les vieux coups de ta volonté sur l'autre, dans la noire sur la plus pure de l'empereur, et arbore les couleurs du côté obscur.
La force est noire, noire comme le château, où flotte l'étendard, notre drapeau, sois sûr, que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, obscur, la force est noire, noire comme le château, où flotte l'étendard, notre drapeau, sois sûr, que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, obscur.
Yes, voilà.
I Am, qui était ici à Radio France en 2017 pour le hip-hop symphonique, en 2017 accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Dina Gilbert et le groupe The Ice Cream. Hip-hop symphonique, c'est demain à l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Gabriel Olivier Aguillon.
À 8h17, merci d'écouter France Musique. Soyez prudents si vous nous écoutez en conduisant et très bon réveil à vous. Ce week-end, eh bien, vous avez rendez-vous avec plusieurs émissions évidemment. Et le dimanche à 11h, Priscille Lafitte dans Musique et moi reçoit une personnalité. Après-demain, c'est au tour du chorégraphe et performeur Jérôme Bell. En avant-goût de cet entretien qui vous attend, voici un extrait. Jérôme Bell nous raconte une anecdote de son enfance au sujet du piano.
Vers l'âge de 8-9 ans, je vivais à Téhéran et des amis de mes parents avaient 3 enfants qui étaient musiciens et j'avais une de ces enfants jouait du piano. Elle jouait ce morceau et j'aimais beaucoup ce morceau et je lui disais toujours « Ah, joue-moi le dernier menuet ». Et puis, mon père a été nommé au Maroc, on est parti, cette famille est allée ailleurs, je pense. Et quelques années après, je devais avoir une douzaine d'années, j'ai voulu apprendre le piano. J'ai commencé à prendre des cours, on a acheté un piano, et au bout d'un an, deux ans, j'ai dit que je voulais plus faire de piano. Et encore quelques années après, j'ai retrouvé ses amis, cette fois-ci à Paris, ses amis de Téhéran. Et il y avait un piano dans l'appartement, et j'ai dit « Ah, mais tu te rappelles quand tu me jouais ce morceau-là » Et elle me fait « Mais oui, mais oui, mais oui », et elle le joue comme ça. Et c'est à ce moment-là, précisément, que je me rends compte que quand j'ai décidé d'arrêter de jouer du piano, je savais jouer ce morceau-là.
Et ce morceau-là, dans la voix de Jérôme Bell, eh bien c'est le menuet en ré mineur BWV 132 de Jean-Sébastien Bach. Le voici dans la version de Christophe Eschenbach.
Thank you.
pour piano en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, interprété par Christophe Eschenbach, l'une des pièces dont Jérôme Bell parle dans son entretien intégralité en intégralité à écouter dans Musique et moi par Priscille Lafitte ce dimanche 21 novembre à 11h sur France Musique évidemment. Jérôme Bell programmé au Festival d'automne du 30 novembre au 18 décembre à Aubervilliers puis à Paris. 8h20, tout de suite c'est notre rendez-vous Maxi Classique. Oui, comme tous les jours, c'est l'heure de Maxi Classique par Max Dozolm. Bonjour Max.
Bonjour Gabriel, bonjour à toutes et à tous.
C'est un des albums les plus attendus de l'année, 30 ou 30 à la française. Le nouveau disque de la chanteuse Adèle sort aujourd'hui.
L'une des plus grandes artistes de notre époque, qui par sa maîtrise vocale et son classicisme, fait figure de diva moderne. There ain't no gold in this river that I've been washing my Diva, de l'italien diva, déesse, nom féminin, désigne une cantatrice célèbre par son talent, sa réputation. Se dit de préférence d'une cantatrice d'opéra. Adèle ne se revendique pas des compositeurs classiques et romantiques. Son modèle n'est pas Maria Callas, mais se nomme Céline Dion, à qui elle voue un culte qui va loin, puisqu'elle possède même chez elle un chewing-gum mâché de la chanteuse. Oui, absolument. Elle ne chante pas d'air d'opéra et n'a jamais été tentée par des projets crossover mêlant la pop et la grande musique. Et pourtant, toutes ses chansons ont une beauté classique. Cela s'explique, à mon avis, par le piano, son instrument qu'elle ne quitte jamais sur scène, mais aussi par son amour pour les instruments à cordes, qui déploie une musique de chambre sur des clips en noir et blanc. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret. Mais surtout, il y a cette voix, la voix d'Adèle, puissante, juste et qui n'a pas besoin d'artifice ou de vocodeur. C'est ce que l'on constate dans cet enregistrement où la partie vocale de la chanson Hello est isolée du reste des instruments. On a beaucoup parlé et écrit sur la voix d'Adèle, un objet de fascination qui, au-delà des goûts de tout un chacun, force indéniablement le respect. Ce qui revient souvent dans les commentaires, c'est le caractère explosif de sa voix. Cette capacité à ménager les crescendo, mais aussi à passer soudainement d'une intensité piano à un fortissimo vertigineux, n'est sans doute pas étrangère au succès mondial de Skyfall, la première partition d'un James Bond à obtenir l'Oscar de la meilleure chanson originale en 2013. The sky falls when it crumbles. We will stand tall and face it all together. Si Adèle était une chanteuse lyrique, si elle chantait des opéras ou des œuvres sacrées, quel serait son registre? Certainement celui d'une mezzo-soprano ou bien d'une contralto. Dans son dernier album, intitulé 25, et sorti il y a 6 ans déjà, Adèle montrait qu'elle était à l'aise pour chanter un fa très grave, que l'on nomme le fa troisième degré. Everybody tells me it's about time that I moved on. Adèle maîtrise aussi des aigus puissants, comme le montre la chanson Water Under the Bridge, un pont musical qui relie l'opéra et les stades, une aria moderne entre hier et aujourd'hui.
Easy on me, un extrait du dernier disque d'Adèle. Maxi classique par Max Dozolm, une chronique à réécouter sur francemusique.fr et à podcaster depuis l'application Radio France. Et quant à moi, je vous propose une autre diva, Katia Bunatichvili, dans l'impromptu, opus 90 numéro 2 de Franz Schubert.
Thank you.
pianiste Katia Bugnatichvili dans cet impromptu en mi bémol majeur, opus 90, numéro 2 de Franz Schubert. Vous restez avec nous, il est 8h29 et l'heure d'accueillir notre invité.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Gabriel Oliver Aguillon.
Notre invité ce matin, Denis Podalydès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comédien, écrivain, metteur en scène, sociétaire de la Comédie Française et vous êtes actuellement au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 28 novembre dans une pièce, La disparition du paysage, une pièce écrite par Jean-Philippe Toussaint pour vous, un monologue, donc vous êtes seul en scène. Il vous a fait don de ce texte. Quelle est la genèse de ce projet?
Un jour, j'ai reçu un appel où j'ai reçu un mail de Jean-Philippe Toussaint que j'avais déjà enregistré. J'avais enregistré un petit livre qui s'appelle Football, qui est une merveille. Et il m'a appelé pour qu'on se voit à Paris et voulait me donner un texte. Et il m'a donné ce texte sous forme tapuscrite en me disant, voilà, j'aimerais bien que vous le jouiez un jour. Et j'ai reçu ça un peu comme une mission. Je l'ai lu et je trouvais que ça n'était pas simple à réaliser au théâtre. Et puis, petit à petit, l'idée s'est formée et j'ai eu le désir de rencontrer le metteur en scène Aurélien Bory, parce qu'il m'a semblé qu'il fallait un espace inédit pour ce texte. C'était une intuition comme une autre. Et par l'intermédiaire d'Olivier Mantei, directeur du Théâtre des Bouffes du Nord, j'ai rencontré Aurélien. Et nous sommes entendus tout de suite. C'était très, très rapide.
Vous n'aviez jamais travaillé ensemble?
Non, jamais. On s'est rencontrés au Café Français, place de la Bastille. Et puis, il s'est mis à griffonner des petites choses. Et on a parlé. Et puis, voilà. Et ensuite, ça n'a été qu'un dialogue permanent. Une entente très grande dont je suis extrêmement heureux.
On va peut-être raconter un petit peu l'histoire de ce texte. La disparition du paysage, en tout cas. C'est celle d'un homme face à sa vie, sa mort, qui est immobilisé dans un fauteuil roulant, devant une grande fenêtre qui donne sur la plage d'Ostende en Belgique, victime d'un attentat. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mort? En tout cas, il est seul devant le monde. C'est un moment aussi qui renvoie vers notre quotidien aussi, peut-être pendant les confinements. On est seul face à ses propres questions, des questions sur l'avenir plus ou moins proche qui est seul.
Qui est seul, seul à l'intérieur de son crâne, on pourrait dire, seul dans un corps qui semble avoir abandonné, qui n'a plus de mobilité, et en proie à des visions, des sensations, des réminiscences qui ne sont jamais, dont il n'est jamais vraiment sûr. Il a en face de lui un paysage dans lequel soudain se superposent des visions, en fait, et comme c'est un écrivain, il a l'impression d'avoir que c'est quelque chose qu'il a écrit, que ce qu'il a en face de lui correspond à ses sensations. Il doute savoir s'il a une réalité en face de lui ou s'il n'a que le contenu de ses pensées, de ses émotions. Donc c'est un style petit à petit, un doute et aussi une amnésie, puisqu'il essaye de remonter, de savoir depuis quand il est dans cet endroit.
Oui, c'est pas vraiment ce qui s'est passé.
Il y a un oubli, il y a un terme au-delà duquel il n'arrive pas, sa mémoire ne remonte pas. Et tout l'effort, le travail du texte, c'est d'essayer de refaire surgir ce qu'il y a au-delà d'un moment brumeux après lequel il ne sait plus rien.
Mmh. On écoute un extrait de La disparition du paysage, la voix de Denis Podalydès.
Je suis seul depuis longtemps dans cet appartement, avec ce mur de béton aveugle pour seul horizon. Je n'ai plus aucun repère à présent. Je suis emmuré dans ce tombeau et j'ignore si l'extérieur est devant moi ou au-dessus de moi, et si même il y a encore un extérieur. Alors commence de s'insinuer dans mon esprit
le soupçon que la réalité que je suis en train de vivre depuis plusieurs semaines dans cet appartement d'Ostend est une fiction. Tout au moins, une chimère, une métaphore du drame qui m'a d'abord brisé physiquement avant de s'attaquer à mes facultés mentales et que, en vérité, je suis déjà mort. Et cette longue évocation grise et mélancolique de la vue de l'appartement d'Ostend est ma dernière vision consciente. La dernière intuition, le dernier instant visible de ma vie qui s'achève.
Un extrait de la disparition du paysage qui est actuellement au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris jusqu'au 28 novembre avec notre invité ce matin, Denis Podalydès. Un texte de Jean-Philippe Toussaint donc qui a paru en début d'année aux éditions de Minuit et donc là que vous jouez dans une mise en scène d'Aurélien Bory. Qu'est-ce qui vous a séduit dans les idées de la mise en scène d'Aurélien Bory ? C'est quelque chose de très sobre.
Oui, c'est tout à fait sobre dans le rendu et c'est très sophistiqué dans l'élaboration, la conception. Ce qui m'a séduit, la première tentation qu'on pouvait avoir avec quand on a un texte monologue, moi la première tentation ce que j'ai, c'est le texte nu, rien d'autre, une présence et puis un texte. Et il me semblait que, à travers l'entrelac de toutes ces sensations, réminiscences, j'étais omnubilé par cet espace devant lequel est le personnage, c'est-à-dire cette vision d'Ostend, où il voit des ciels. Il est condamné. Il dit parfois, j'ai l'impression d'être dans un musée, à force de fixer le grand tableau immobile que j'ai devant moi, où il voit sans arrêt le ciel, la mer, toutes les variations de lumière, les variations aussi de météorologiques. Et il faut faire quelque chose avec ça. Et Aurélien est parti de ça. C'est la fenêtre, donc le cadre de la fenêtre, et à faire en sorte que dans ce cadre, il y ait une quantité de petits phénomènes, parfois à peine perceptibles, et qui non pas qui illustrent le texte, mais qui accompagnent le texte et qui créent des chocs de sensations entre l'écoute du texte et ce qu'on voit. Donc c'est une sorte d'alchimie, et vous avez en fait comme des formations nuageuses, des formations moléculaires. C'est quelque chose qui est proche de la physique et qui se passe sous les yeux du spectateur, qui fait que l'idée de ça, c'est que le spectateur ait à peu près une expérience semblable à celle du narrateur.
Une sorte de brouillard comme ça ou qui appelle à l'imaginaire.
C'est ça. C'est une vraie brume d'ailleurs. C'est pas de la fumée. C'est tellement fait de façon subtil que les gens croient que c'est une vidéo. Ce n'est pas du tout une vidéo.
C'est vrai.
C'est une brume qui est produite. Donc c'est très humide derrière. Et ensuite, dans un deuxième moment du spectacle, je vais dans cette brume.
L'importance de l'imagination pour s'élever. C'est aussi un des points de de cette pièce.
En fait, c'est ça. Le personnage, il est tout le temps entre la vision d'une réalité et l'imagination de cette réalité. Et il ne sait plus du tout s'il a affaire à la réalité réelle ou à la réalité pure et simple de son imagination. Quel moment est-il en train de vivre ? Est-il dans un moment dilaté, un moment long, ou est-il dans un moment unique ? Et on ne le sait véritablement, la réponse à ça. Il y a une enquête policière un peu pour savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je suis là ? Et on va comprendre effectivement qu'il y a un attentat, qui est un attentat réel, d'ailleurs survenu le 22 mars 2016 à Bruxelles.
Effectivement, on est donc entre l'intérieur, l'extérieur, la fascination aussi face à l'extérieur, ce qui se passe en dehors, en dedans. Vous qui êtes comédien et aussi metteur en scène, est-ce que vous avez été tenté ou vous avez participé activement avec Aurélien Bory à tout ça ou vous vous êtes laissé guider ?
Alors je me suis laissé absolument guider parce que quand on est dans un fauteuil roulant et qu'on est même un moment de dos, on peut pas du tout, on ne contrôle pas forcément ce qui se passe dans la boîte scénique. Et puis j'ai une confiance totale en Aurélien, mais on a énormément conversé. Je lui fais part de toute idée que je pouvais avoir, de tout sentiment, dans une conversation générale et amicale, et très 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 nourrie de ce qui émanait du texte.
De Jean-Philippe Toussaint. La pièce a été plusieurs fois annulée pour cause de crise sanitaire, et puis elle a été créée en mars dernier au Théâtre National du Luxembourg. Il y a eu des évolutions depuis ?
Oui, ben on l'a joué 4 fois. Oui, il y a eu des évolutions, et j'espère qu'il va y en avoir encore.
Ah oui, d'ici le 28 novembre.
C'est pas des évolutions techniques, c'est la conception du spectacle. C'est vraiment, alors là, dans l'interprétation, pratiquement.
Donc moi, c'est sur vous.
Oui, parce que il faut que je progresse encore. Je l'entends. J'ai des progrès à faire. C'est la, comment, c'est
vous très, l'avez entendu, là, par exemple, avec ce qu'on a écouté?
Oui. Je sens que c'est aussi, la grande difficulté, c'est se détacher du littéraire pour accéder d'une certaine manière au théâtral et en même temps maintenir la puissance de la forme littéraire. Et donc, il y a une simplicité et un rendu, comment dire, un rendu émotif, je ne sais pas exactement comment dire. Moi, l'idéal, c'est que le spectateur soit au plus près de l'expérience concrète, qu'il puisse s'identifier totalement. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui nous ont dit, oui, ça faisait penser au confinement, parce que le personnage est enfermé dans ce lieu-là. Alors, effectivement, ça faisait, mais c'était pas du tout voulu dans le texte, évidemment, puisque c'était écrit bien avant. Mais cette claustrophobie, et cette difficulté à mettre des noms sur des sensations, il y a une quête proustienne là-dedans, une quête d'un temps perdu, d'un temps même dispersé, dilapidé, et aussi une réflexion sur être au plus près du moment de mourir. Mais pas vu absolument pas d'une façon pathétique d'ailleurs. Je dois aussi chasser tout pathos, mais j'en ai peut-être encore des moments où j'y succombe, de façon à s'approcher au plus près d'une sorte d'expérience clinique, physique, du moment, qu'est-ce que c'est que le tout dernier moment.
L'ouverture de la Clémence de Titus de Mozart sur France Musique ce matin, interprétée par le Cercle de l'Harmonie, l'ensemble Aedes pour cette production dirigée par Jérémy Rohrer, qui a été enregistrée en direct au Théâtre des Champs-Élysées à Paris en 2014. Et vous, Denis Podalydès, vous étiez à la mise en scène de cet opéra puisque vous faites ça également.
Oui.
Et ce n'est pas la première fois.
Non, mon premier opéra, c'était Fortunio de Messager, dirigé par Louis Langrée, qui est le nouveau directeur de l'opéra comique.
Oui.
Et nous avions fait ce Fortunio ensemble avec un immense plaisir.
Et que vous aviez repris d'ailleurs.
Et repris
en
2019. Voilà, de nouveau avec Louis, avec une autre distribution. Et c'était un travail réjouissant à faire. Et ça m'a totalement passionné. Moi qui ne connais rien en musique, c'est Louis Langrée m'a quand même appris à lire une partition.
Vous êtes mis au solfège.
Je me suis mis un peu au solfège, et puis après, d'année en année, maintenant, je suis vraiment avec un doigt, quelquefois. J'aime beaucoup faire ça, écouter les chanteurs, et avec mon doigt suivre les notes, puis au bout d'un moment, je suis complètement noyé. Je l'ai fait de ma dernière mise en scène, enfin, qui aurait dû être faite au printemps 21 ou 20, je sais plus, qui est Falstaff, que je ferai en 23 à l'Opéra de Lille.
Et puis, il y a eu le conte Horry de Rossini aussi avec oui. Julie Fuchs à l'Opéra Comique en 2017. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans la mise en scène d'opéra? Est-ce qu'il y a une... Comment vous décririez ce que vous faites dans les mises en scène d'opéra?
Je ne sais pas du tout. J'essaye de travailler avec les chanteurs comme s'ils étaient des acteurs, tout à fait. Alors qu'au début, je mythifiais tant le chanteur, je le voyais comme une créature qui était pour moi d'un autre monde, d'une autre chair. Et finalement...
C'est des gens normaux.
On confie plutôt des opéras très dramatiques, ou voire des comédies dramatiques, ou des même bouffes, comme le conte Horry. Et donc... J'essaie ni plus ni moins de raconter l'histoire avec les chanteurs, avec la musique, de me servir de tout et de les nourrir de la situation, de leur inspirer des idées, des sentiments, les rendre assez autonomes aussi en tant qu'acteurs. Voilà, on essaie de faire du théâtre.
La mise en scène, vous en parlez aussi beaucoup dans votre livre, puisque oui, vous êtes écrivain et vous êtes l'auteur d'un livre paru le 14 octobre dernier aux éditions du Seuil, « Les nuits d'amour sont transparentes pendant la nuit des rois ». Donc cette pièce de Shakespeare, vous racontez un peu les coulisses de cette pièce donnée en 2018 à la Comédie Française, dans lequel vous, Denis Podalydès, vous jouez le rôle du duc Orsino, mise en scène de façon assez cocasse mais aussi profonde par Thomas Ostermayer. C'était l'envie de dévoiler les coulisses, justement, dans ce livre.
Essayer, pour moi aussi, de comprendre le grand art de ce metteur en scène, parce que je me disais, mais je n'arrive pas à voir comment il fait. Je vois les acteurs se transformer, je vois les sentiments apparaître, à fleur de peau, de voix, je vois les situations prendre, devenir de plus en plus claires, saillantes, la beauté naître, tout simplement. Et je voulais essayer de suivre ce parcours, d'écrire, de mettre des phrases là-dessus, et ainsi aussi de révéler l'art de mes camarades, de faire des portraits d'eux. Noter tout ce qui se passe en répétition, c'est totalement passionnant, parce qu'en fait, c'est un monde, on pourrait écrire des livres entiers. Et parfois, la merveille, c'est d'attendre simplement, de décrire ce moment d'attente, où même un metteur en scène, parce que Thomas est un metteur en scène si délicat, il ne force rien. Il met les acteurs dans un état de disponibilité à eux-mêmes, au texte, à la situation, à leur personnage, et avoir le courage, la patience d'attendre que ça surgisse.
Vous dites dans le livre, il y a beaucoup d'humilité aussi, vous décrivez vos désirs, vos idées de mise en scène précisément sur la nuit des rois, de ce que vous auriez fait éventuellement, et puis vous êtes en fait conquis par la vision de la pièce de Thomas Ostermayer.
Oui, alors c'est pas une concurrence comme ça entre ma mise en scène rêvée, au contraire, je dis dans un texte qui s'appelle « Je suis acteur décidément », j'avais toujours rêvé de monter la nuit des rois, puis ça s'est jamais fait, par presque des hasards comiques. Et puis, en rencontrant Thomas Ostermayer, j'ai oublié mon propre... Enfin, je l'ai mis de côté pour m'abandonner au sien, qui me semblait tellement plus intéressant que le mien, je dois le dire. Et le livre est un peu la tombe de ce projet. Je pense que je ne l'ai pas fait parce qu'il était trop fantasmatique. J'ai une propension à rêver et à fantasmer les choses que je ne me donne pas les moyens de les réaliser concrètement.
Vous vous dites, je me fais rire en pensant que j'ai plus appris sur la pièce en 3 heures de travail avec lui qu'en 20 ans de lecture et de rêverie solitaire.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez appris à ce moment-là, Denis Podalydès?
J'ai appris aussi la dimension politique de la pièce. Et c'est une pièce d'amour et c'est une pièce qui... Parce que ça se passe dans des états déliquescents. Et la question de l'amour, posée de la manière dont Thomas la posait, a une ampleur politique. Parce que l'amour, c'est souvent ce qui... détruit aussi les rapports, ce qui menace le pouvoir. Parce que le personnage d'Orsino que je joue, c'est, en principe, c'est un roi, c'est un dirigeant. Il devrait parler en monarque, il devrait agir en roi, et non, au lieu de prendre la parole publique, de dire les choses du pouvoir, il confesse une faiblesse amoureuse, un désir malheureux, une mélancolie, donc il fait absolument pas ce que... Imaginez un jour Macron qui prend la parole en disant « Je suis désespérément amoureux, je sais pas quoi faire. »
Je suis perdu.
Il est impossible que le monarque ait une parole aussi intime.
Intime, ça revient sur les lettres intimes qu'on entend dans la pièce qui est actuellement au Bouffe du Nord de Jana Tchek. Et puis là, pour la musique de cette pièce que vous avez donnée, donc, que vous décrivez beaucoup, en tout cas pour les coulisses de La Nuit des Rois de Shakespeare, mise en scène par Thomas Ostermayer, il y a Monteverdi.
Thank you.
La voix de Montserrat Figueras, accompagnée par la Capella Real de Catalogne, dirigée par Jordi Savall, dans cette deuxième partie du Lamento della Ninfa de Monteverdi, Amor, ce madrigal du livre 8 que l'on entend dans La Nuit des Rois ou tout ce que vous voulez de Shakespeare, mise en scène par Thomas Ostermayer. C'était en 2018. Denis Podalydès, vous êtes notre invité, et justement dans votre livre qui vient de sortir, Les Nuits d'amour sont transparentes, où vous décrivez les coulisses de cette mise en scène, de cette représentation. Vous vous rappelez donc ces moments musicaux?
Oui, parce que je commençais la pièce avec ça. La pièce commence par ce vers très célèbre. Si la musique alimente l'amour, alors jouez. Et que dès le premier vers, la musique et l'amour sont liés dans le poème dramatique. Et ensuite, le personnage d'Orsino se gave de musique pour essayer de se dégoûter de l'amour. C'est comme s'il voulait manger de la musique, arriver à un point de dégoût, et ça lui permettrait d'évacuer l'amour, de le vomir presque. Et donc c'était dans la mise en scène, c'était le Lamento della Ninfa, qui était cette musique que je faisais reprendre et reprendre encore, et ça commençait le spectacle.
Est-ce que les textes de théâtre peuvent être comparables selon vous à la musique, à une partition?
Parfois. Je dirais que les textes en vers, ils suscitent leur propre musique. Ça ne veut pas dire qu'il faut les jouer en musique, ils sont une forme musicale. Et on peut envisager aussi qu'il y a une certaine musique. Ça ne veut pas dire... parce qu'il y a des acteurs qui vous diront « Non, non, surtout pas, c'est surtout pas de la musique, c'est de la vie, c'est de l'émotion. » Mais je crois que oui, il y a de la musique là-dedans.
Je rappelle, Denis Podalydès, la sortie de votre livre « Les nuits d'amour sont transparentes » pendant la nuit des rois, paru aux éditions du Seuil. Et puis actuellement, vous êtes depuis hier soir au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris jusqu'au 28 novembre pour la pièce « La disparition du paysage », une pièce écrite par Jean-Philippe Toussaint pour vous, Denis Podalydès, et mise en scène, une belle idée que vous avez eue, mise en scène d'Aurélien Bory. Un grand merci d'avoir été avec nous. Bonne
merci
journée.
Merci à vous. Bonne journée.
Autre danger de nazi, un soldat qui rentre chez lui. Quinze jours de congé qu'il a, marche depuis longtemps déjà.
Que c'est du bon marché, il faut tout le temps l'accorder.
La voix de Denis Podalydès dans le rôle du soldat, dans l'histoire du soldat d'Igor Stravinsky, accompagné par l'ensemble instrumental dirigé par Jean-Christophe Gaillot. Ainsi s'achève à cette 8h57, notre musique matin. Merci à toute la fine équipe qui m'a aidé à préparer cette émission, cette semaine d'émission. Yacine Bouzard à la réalisation, Marjolaine Portier, Kaltenbach, Flora Sternadel et Pierre Matignon, ainsi qu'Alice Escriou à la technique ce matin avec nous. Emmanuel Rose et Cindy Le Grumelec. Pour notre jeu, il fallait reconnaître la voix de Véronique Sanson. Bravo aux gagnants du jour. Lundi, le retour de mon cher Jean-Baptiste Urbain, notre cher Jean-Baptiste Urbain, pour Musique Matin. Après une semaine de repos bien méritée, il recevra le baryton Edwin Crossley-Mercer. Je vous souhaite une très belle journée. Je ne vous quitte pas vraiment puisque je vous retrouve avec grand plaisir demain à 7h30 pour France Musique est à vous. Votre programmation, vos émotions, toutes sont les bienvenues. Notre mail francemusiqueestavous@radiofrance.com n'attend que vous. Je vous dis à demain. Et Émilie Munera, je vous dis bonjour.
Bonjour Gabrielle.
En piste donc, 2 heures de nouveautés. Vous avez un petit avant-goût à nous donner?
Alors pour ouvrir l'émission, un gros coup de cœur, ça sera notre disque du jour, les Irish Songs de Beethoven. Je ne sais pas si vous avez écouté le disque du Richard Carr Consort. C'est très beau avec quelques instruments populaires.
Eh bien, voilà. Je vais découvrir grâce à vous. Bonne émission.
Bonne émission et à demain. Alors à l'antenne encore, Gabriel.
À demain.
Les grands concerts de la Maison de la Radio et de la Musique, c'est tous les samedis de 9h à 11h sur France Musique. À l'affiche ce samedi, la génération des chefs cadras, tous passés à un moment ou à un autre par les pupitres des orchestres de Radio France. Un casting de rêve, Gustavo Dudamel, Philippe Jordan, Tougan Sokiev ou encore Daniel Harding. Rendez-vous samedi à 9h pour les grands concerts de la Maison de la Radio et de la Musique, à retrouver sur France Musique et francemusique.fr.
France Musique, vous allez là, do, ré.
Une heure, un compositeur dans le Van Beethoven d'Aurélie Moreau, cet après-midi à 17h sur France Musique. Honneur à Weber, le père de l'opéra romantique allemand, dont le Freischütz fut l'un des plus grands succès de toute l'histoire de l'opéra. Nous écouterons notamment deux extraits par la Staatskapelle de Dresde, dirigée par Kleiber, ainsi que le chœur final d'Abou Hassan, avec le chœur et l'orchestre de l'opéra d'État de Bavière, dirigé par Savalitch. Et maintenant, en piste, Émilie Munera.
Bonjour à tous, juste vous et moi aujourd'hui. Exceptionnellement, Rodolphe reviendra lundi pour En Piste. On va passer 2 heures ensemble avec le pianiste Jean-Yves Thibaudet, quelques airs de Vivaldi et le Bruckner de Christian Thielmann. Et puis à 10h30, c'est la suite et la fin de notre série consacrée au violoncelliste Truls Mörck. En Piste jusqu'à 11h.
À réécouter sur francemusique.fr.